différentes séries dans des livres bibliques pour quelques semaines, 3-4 semaines, développer des thèmes un peu autour de ce que nous faisons dans la vie chrétienne, comment louer le Seigneur, comment servir le Seigneur. Et pour commencer, j'aimerais vous donner un peu 3 exemples, 3 études de cas. Et ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas inspiré en créant ces études de cas d'une personne ici dans cette assemblée. Okay? Donc ne sentez pas visé, chers amis. C'est le hasard si c'est le cas. Peut-être le hasard souverain de Dieu, mais bon, ça c'est un autre sujet. On y va. C'est mardi. Et il y a une chrétienne de longue date qui aime le Seigneur, qui va faire ses courses. Mais cette dame est accablée par des soucis de santé de longue date aussi. Et elle lutte avec cette souffrance. Et cela fait qu'elle a du mal à rester patient envers ceux qui sont plus jeunes qu'elle. Ces jeunes, à ses yeux, ils ont l'air de tout savoir. Ils ont l'air de toujours courir à gauche et à droite. Ils ont leur téléphone, ils ont tout. Et elle n'a pas tout ça. Et elle lutte par conséquent avec des rancunes, même au sein de son assemblée, auprès de ceux qui ne la comprennent pas comme elle le souhaite. Et là, elle est en train d'aller vers le magasin et elle croise quelqu'un de l'église dans la rue, l'un de ses jeunes. Elle prie à l'intérieur d'elle-même. Et au lieu de donner libre cours à ses frustrations, elle fait l'effort de demander auprès de ce jeune de ses nouvelles. Maintenant, c'est vendredi et il y a un jeune homme converti récemment qui se prépare pour aller à un congrès chrétien pour jeunes. Il a hâte d'y être. Il est un peu embêté par ses études et il sent aussi dans son cœur un peu de culpabilité par rapport à sa marche chrétienne. Parce qu'il sait que de temps à autre, il regarde des choses qu'il ne devrait pas faire. Mais il a hâte de revoir ses amis à ce congrès, d'être stimulé dans la réflexion donnée par les prédications. Mais surtout, il s'attend à des moments intenses de louange. Et maintenant, c'est lundi. Et il y a une femme de ménage qui, elle, est chrétienne, engagée aussi dans son église. Mais elle a une situation financière précaire. Elle est en train de faire le ménage le lundi dans une belle maison. Et là, voilà, elle voit un billet de 100 euros en dessous d'un armoire. Personne ne sait que ce billet de 100 euros est là. Elle le voit et elle a envie de le prendre dans sa poche. Mais elle prend le billet, elle met le billet dans une enveloppe et elle explique dans une note au propriétaire de la maison qu'elle l'avait trouvé en dessous de l'armoire. Alors, laquelle de ces 3 personnes est la plus proche d'adorer ou de louer le Seigneur? La réponse, c'est ça dépend. Ça dépend. La première et la troisième, certainement. Et le deuxième, peut-être. Ça dépend. Aujourd'hui, donc, on aborde le sujet de la louange pour nous aider à comprendre comment nous sommes appelés à louer le Seigneur. C'est souvent un sujet, n'est-ce pas, qui préoccupe les chrétiens. Nous parlons beaucoup de louange. Et j'aimerais qu'on commence en nous rappelant juste de cette histoire de Jacob que nous avons lue sur l'écran. Pas besoin, je pense, d'afficher les versets ici. Lorsqu'on arrive à Romains, ce serait gentil. Mais souvenons-nous dans cette histoire de Jacob, lors de son rêve, Jacob lui-même entre dans le ciel, le lieu de Dieu. Et ce qui n'est guère étonnant, lorsqu'il se réveille, il dit, le Seigneur est en ce lieu. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu. C'est ça ce qu'il a dit. Et ceci, il l'a dit bien avant que le temple a été construit dans l'Ancien Testament. Et donc, le verset 19 du chapitre 28, il appelle la ville Bethel, ce qui signifie la maison de Dieu. Le Seigneur est en ce lieu. C'était le cas donc pour Jacob. Mais pourrait-il être le cas également pour nous aujourd'hui? N'est-ce pas souvent ce qu'on souhaite lorsque nous nous rassemblons? Est-ce que le Seigneur est en ce lieu? Est-ce que c'est ça votre attente ou peut-être votre plainte de chez nous? Vous trouvez que c'est bien, éventuellement, je ne sais pas, vous de nous le dire après, mais vous dites c'est bien, c'est correct, mais le Seigneur n'est pas dans ce lieu. Écoutez ceci tiré du site Top Chrétien, maintenant d'il y a 2-3 ans. Donc, ce n'est pas tout frais. Hein. Je ne critique pas forcément le site Top Chrétien en tant que tel, mais voici quelque chose écrit par un Joel Osteen, que je ne connais pas, mais un enseignant chrétien. La Bible dit, je cite, que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Lorsque vous adorez le Seigneur, sa présence se manifeste. Où que vous soyez, que ce soit à la maison, dans votre voiture ou au travail, Dieu est présent dans vos louanges. Et là où est Dieu, une puissance extraordinaire se déploie. L'ennemi ne peut pas tenir en présence de notre Dieu puissant. Commencez dès à présent à louer le Seigneur de tout votre cœur, tout au long de la journée. Chantez-lui des cantiques et proclamez sa bonté. Ainsi, vous expérimenterez la vie de victoire qu'il vous a réservée. Fin de citation. Mais est-ce juste de dire la présence de Dieu se manifeste lorsque nous louons le Seigneur? Est-ce que la louange, deuxième question, se fait essentiellement comme cette citation laisse entendre à travers la musique, le chant? Alors, pour comprendre ces choses-là, nous allons traverser dans plusieurs textes de la Bible. D'abord de l'Ancien Testament, nous avons vu encore Genèse, mais on va voir un autre, et ensuite dans le Nouveau Testament. Plus tard, après l'événement de Jacob, le tabernacle est construit dans le désert pour le peuple de Dieu. Et ensuite, le temple est construit. D'une manière plus publique, plus permanente, il y avait au sein du peuple de Dieu la présence de Dieu dans le temple. C'était la maison du Seigneur. Nous lisons de Salomon, dans 1 Roi, chapitre 8, verset 10, ce qui se passe lorsque le temple est consacré. Verset 10 de 1 Roi 8, ce n'est pas projeté. Au moment où les prêtres sortaient du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur. Les prêtres ne pouvaient plus se tenir là pour officier à cause de la nuée, car la gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Imaginez la scène à ce moment-là. Vous avez un bâtiment, la taille d'une grande cathédrale d'aujourd'hui, qui se remplit d'une nuée. Une nuée qui est trop sainte, trop Dieu, si vous voulez, pour qu'on puisse se tenir debout, qu'on puisse même rester dans ce lieu. Dieu était là. Dès ce moment dans l'histoire de l'Ancien Testament, le temple, du coup, devient le centre d'adoration à Dieu. C'est normal parce que c'est là où Dieu est présent. Si vous souhaitiez à cette époque adorer Dieu, rendre un culte à Dieu, il fallait vous rendre au temple pour avoir l'expérience plus intime. C'est là où on rentrait dans la présence de Dieu. C'est ça, si vous voulez, l'adoration dans l'Ancien Testament. Elle gravitait autour du temple. OK? Alors, mais ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament trouve sa suite dans le Nouveau Testament. Car il y a une trajectoire vers une louange encore plus riche, encore plus importante, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament. Et si nous ne captons pas cela, nous courons le danger de vouloir reproduire le système du Temple dans nos locaux d'église, de rassemblement chrétien, aujourd'hui. Et ce serait une erreur, parce que nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans l'accomplissement de l'Ancien Testament, qui est le Nouveau Testament. Et c'est pour ça que nous avons vu ces paroles de Jésus à Nathanaël, au chapitre 1 de l'Évangile de Jean. De nouveau, pas besoin de projeter. Jésus lui répondit à Nathanaël, verset 50 du chapitre 1, « Parce que je t'ai dit que j'étais vous sous le figuier, tu crois tu verras des choses plus grandes encore. » Et puis, il disait à Nathanaël, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Mais d'où vient ce langage de Jésus? De Genèse, chapitre 28. Jacob. Donc, en fonction de sa rencontre avec Jésus, Nathanaël a la possibilité de voir le ciel ouvert. D'entrer, si vous voulez, dans la présence de Dieu, car à travers Jésus, il aura accès au Père. Maintenant, on avance encore un chapitre. Ici, ce serait de nouveau pas projeté, mais si vous avez le chapitre 2 de l'Évangile de Jean sous les yeux, vous allez voir qu'à partir du verset 19, nous sommes dans cette histoire où Jésus chasse du temple les marchands. Verset 18, les Juifs lui demandent un signe pour agir de la sorte. Jésus dit, verset 19, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. Est-ce que vous voyez la portée de cela? Jésus, avec une autorité simple mais profonde, se prétend être aussi important, plus important même, que le temple, l'apogée du système de l'Ancien Testament. Tout ce que le temple préfigurait trouve son accomplissement en Jésus lui-même. Donc le lieu de rencontre aujourd'hui avec Dieu n'est pas au temple, mais c'est à travers le corps de Jésus-Christ. Vous vous souvenez, bien sûr, du système sacrificiel du temple, sacrifice pour ôter les péchés du peuple, les prêtres lévitiques, qui seuls pouvaient opérer ces sacrifices de tout genre. Cela, pourquoi? Pour qu'un peuple rebelle puisse rester dans la présence, en relation avec le Dieu Saint. Mais détruisez ce sanctuaire, disait Jésus, et ils l'ont fait, n'est-ce pas? Ils l'ont crucifié, le corps de Jésus. L'homme qui est Dieu, lui, a été sacrifié. Et toute la colère de Dieu contre notre péché, notre injustice, notre rébellion, a été prise non pas par des animaux symboliques, mais par Jésus, l'agneau de Dieu par excellence, lorsque Jésus est mort sur la croix. Comment est-ce qu'il continuait, Jésus? Et en 3 jours, je le relèverai. Oui, en ressuscitant d'entre les morts, il démontre qu'il règne, il a accompli son œuvre. À travers son sang, nous entrons maintenant de manière définitive dans la présence de Dieu. Et donc, c'est ainsi que Jésus devient le temple, lui-même l'accomplissement de ce système de sacrifice qui préfigurait le sacrifice que Jésus, lui, allait offrir. Le temple, le bâtiment, donc, n'a plus d'importance, car le lieu de rencontre avec Dieu, c'est Jésus. Du coup, chercher la présence de Dieu dans un bâtiment, dans le nôtre, n'a plus de sens. D'ailleurs, parfois, il faut qu'on prenne de l'air pour qu'on continue à entendre. Tu peux même ouvrir la porte un peu, hein, Monique, hein? Mais s'il y a trop de bruit, on ferme à un moment donné. Mais c'est bien d'avoir de l'air pour qu'on reste éveillé. N'est-ce pas, Samuel? Voilà, super. Ok, très bien. Merci. Mais de chercher la présence de Dieu dans un bâtiment n'a pas de sens car le lieu de la présence de Dieu a changé. Pour rencontrer Dieu, aujourd'hui, nous allons à Jésus. Donc, ce bâtiment n'est pas, malgré le fait que parfois dans le langage courant des chrétiens, ce bâtiment-ci n'est pas la maison du Seigneur. Ce n'est pas non plus, d'après le langage des protestants, le temple. Je trouve ça malheureux, chers amis, qu'on appelle un bâtiment un temple. C'est exactement le contraire. Ce n'est pas le temple. Mais voilà, je comprends, ceci dit, que parfois la signification des mots change, et donc on ne lutte pas forcément pour corriger ça à chaque moment. Mais ce n'est pas un lieu sacré ici. Jésus souligne cela deux chapitres plus tard dans l'évangile de Jean, lorsqu'il s'entretient avec une femme samaritaine au chapitre 4. Les Samaritains, si on ne se souvient pas, étaient pour des Juifs qu'un Mormon est pour des chrétiens. C'est-à-dire, il y a des ressemblances, mais ils avaient des croyances non orthodoxes, surtout par rapport à cette question de où est-ce qu'ils devaient adorer Dieu. Verset 19 du chapitre 4, la femme, Seigneur lui dit, la femme, je vois que toi, tu es prophète, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Donc, l'heure vient, dit Jésus. Et l'heure dans l'évangile de Jean, c'est quoi? C'est l'heure où Jésus doit retourner à son Père, et cela à travers sa mort et sa résurrection. À ce moment-là, dit-il, la vraie adoration se fait ni à Jérusalem, ni sur une autre montagne, mais en esprit et en vérité. Est-ce que nous voulons être des adorateurs en esprit et en vérité? Alors, selon la fin du chapitre 3, Jésus dit ceci, verset 33 du chapitre 3, « Celui qui a reçu son témoignage de Jésus a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu donne l'esprit sans mesure. » Nous voulons donc adorer en esprit et en vérité, c'est à travers celui qui dit les paroles de Dieu qui viennent de par l'Esprit de Dieu. Jésus lui-même révèle la vérité de Dieu, le Père. Et grâce à l'œuvre de son Esprit, nous sommes encore aujourd'hui capables de comprendre cela, de placer notre confiance en Jésus. Nous devenons des vrais adorateurs, ce que le Père cherche si nous venons par la foi à Jésus-Christ. Jésus est notre accès au Père. L'adoration, donc, deuxième point, dans le Nouveau Testament, gravite autour de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est intéressant, je trouve, que dans les évangiles, le mot employé dans l'Ancien Testament pour se prosterner devant Dieu est employé lorsque des hommes et des femmes fléchissent le genou devant le Seigneur Jésus-Christ. Non pas lorsque les hommes et les femmes se rassemblent pour chanter, pour encourager les uns les autres mutuellement, mais lorsqu'ils rencontrent le Seigneur Jésus. Je pense à l'homme aveugle, vous vous souvenez de lui, dans Jean chapitre 9, verset 38. Une fois que Jésus lui a expliqué qu'il était le Fils de l'homme, alors il déclara, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna, voici le verbe, il se prosterna devant lui. C'est-à-dire, il donnait sa vie tout entière à Jésus-Christ. Donc, l'adoration dans le Nouveau Testament gravite autour de Jésus, elle se fait par lui, par Jésus. Si vous souhaitez donc adorer Dieu aujourd'hui, il faut absolument, impérativement, passer par Jésus. Croire en Jésus. Il faut donner ta vie pour le suivre, pour le servir. L'adoration, toujours, toujours dans la Bible, est à la lumière de l'action de Dieu envers nous, de sa grâce envers nous. Ce n'est jamais un moyen pour nous de trouver la présence de Dieu. Mais à la lumière de sa présence en Jésus-Christ, parmi nous, nous sommes poussés à adorer le Seigneur. Je ne trouve pas Dieu parce que je le loue. Je le trouve parce que il m'a trouvé. Donc l'adoration se fait par lui. Mais l'adoration aussi donc se fait pour lui. Comment on peut s'y attendre, je pense, le langage employé dans l'Ancien Testament pour l'adoration, surtout l'adoration liée au temple, les sacrifices, le service dans le temple, n'est pas employé pour des rassemblements chrétiens, vous savez, mais plutôt pour une vie tout entière consacrée à Jésus. Et j'aimerais juste qu'on réfléchisse maintenant quelques instants sur les versets de Romains chapitre 12. 1 et 2. On va y avoir 2-3 autres versets, puis on termine, les amis. Donc, verset 1 de Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce que notre culte raisonnable ici, les amis? Cela n'a pas lieu dans un lieu sacré, mais cela a lieu n'importe où se trouve le chrétien. Il est appelé à offrir son corps comme un sacrifice vivant. Au temple, dans l'Ancien Testament, il y avait un animal entier offert à Dieu, sacrifié, brûlé. Nous devons faire de même avec notre corps. Mais bonne nouvelle, nous faisons cela comme un sacrifice vivant. On ne va pas mourir via notre propre sacrifice. Notre sacrifice, c'est en tant qu'être vivant. Mais le sacrifice, c'est notre corps, tout ce que nous sommes. Ce n'est pas une partie de ce que nous sommes. Nous sommes appelés donc à donner nos louanges à Dieu à travers une vie tout entière pour aimer, pour servir, pour obéir au Seigneur. Voici donc le culte offert aujourd'hui par un adorateur en esprit et en vérité. Le culte, ce n'est pas de nouveau le rassemblement chrétien, même si c'est vrai, nous comprenons que le langage a changé et donc, de manière de nouveau un peu malheureuse, nous appelons notre rencontre un culte. Le culte, c'est pas vraiment ça, chers amis. Le culte, c'est de servir Dieu. C'est beaucoup plus large de ce que nous faisons ici. Nous servons bien entendu Dieu, nous louons Dieu ici. Mais ça, cela est une expression de notre louange de toute une vie. Imaginons qu'on passait la bourse, nous ne le faisons plus cela. Si vous souhaitez donner financièrement pour soutenir l'œuvre de Dieu ici, on met à votre disposition cette tronc à la sortie. Vous pouvez donner ce que vous voulez, mais dans le temps, on passait la bourse. Peut-être vous avez l'habitude de ça dans les églises d'où vous venez. Mais l'erreur lorsqu'on passe la bourse, c'est de croire que Dieu est satisfait avec moi si je mets une bonne contribution. Là-dedans, n'est-ce pas? C'est le danger. Je mets 20 euros, 50 euros par rapport à ce que je reçois. Oh, super, il doit être content avec moi cette semaine-ci, le Seigneur, n'est-ce pas? C'est fait, j'ai rendu hommage qu'il fallait à Dieu pour cette semaine. Plus besoin maintenant donc de penser à lui pour une semaine de plus. Mais en fait, si vraiment on voulait faire le nécessaire, lorsqu'on passait la bourse, au lieu de mettre quelques pièces, au lieu de mettre même quelques billets, il faudra plutôt essayer de mettre mon corps tout entier dedans. Parce que c'est ça ce que nous faisons avec le culte. Nous offrons notre corps entier à Dieu. Ce qui signifie que nous devons faire attention à toute tentative de séparer notre louange de notre comportement. C'est triste à dire, mais certains sont aveugles à cela. Et c'est pour ça, dans ces trois exemples, au début, je disais, ça dépend. Ça dépend de chacun, si chacun, dans sa vie tout entière, est en train de consacrer sa vie tout entière à Dieu. Si nous ne sommes pas en train de faire ça, c'est inutile de chanter la louange de Dieu en disant « ça c'est une magnifique louange ». Ça vaut pour rien si dans un autre domaine de ma vie, je ne suis pas en train de servir, d'aimer, d'obéir au Seigneur. Malheureusement, je connais plusieurs exemples de différentes personnes qui ne comprennent pas cela. Et c'est essentiel, les amis. Je me rappelle d'une personne qui vivait un moment très pénible dans son couple, essentiellement parce qu'elle avait été infidèle envers lui. Mais du coup, ça crée évidemment une grande tension au sein du couple. Et je me souviens qu'elle m'avait dit, si tu sais ce qui m'aide à tenir le cap pendant ces moments difficiles ensemble, c'est que je chante dans le groupe de louanges et je ressens la présence de Dieu. Il n'est pas question, mes amis, il n'est pas question. On peut réclamer toute l'intimité avec Dieu qu'on veut, mais à ce moment-là, le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu avec un D minuscule de notre propre imagination. Quand la louange demande que nous avons un esprit repentant, et contrit, qui tremble à sa parole, qui cesse le péché avant de louer. Donner suite, pour un autre exemple que j'ai donné au début, à notre amertume vers un jeune, céder à la tentation de voler quand je suis devant cela, résister la tentation de consulter quelques sites, ce sont les choses qu'il faut pour un culte raisonnable à Dieu. Est-ce que X a bien loué le Seigneur aujourd'hui? Ça dépend. Ça dépend de sa vie tout entière. Alors, où est-ce que nous en sommes? Il faut qu'on termine, chers amis. Qu'en est-il alors, comme conclusion, de l'adoration et de ce rassemblement-ci? De dimanche matin. Alors, vous vous dites, ok, vous ne visez pas forcément donc, la louange en tant que telle ici, c'est plus grande que cela, c'est Jésus, C'est une vie consacrée à Jésus. Mais alors, pourquoi nous nous réunissons? Partout dans le Nouveau Testament, c'est que notre assemblée a pour but de fortifier les chrétiens à mieux connaître la parole de Dieu, l'évangile de Christ, mieux connaître le Seigneur, mieux être équipé pour qu'on vive pour lui, pour qu'on l'adore dans notre vie de tous les jours. Nous ne venons pas comme des individus sur une quête de trouver Dieu, de le rencontrer à travers un moment de louange. Nous venons car il nous a déjà trouvés. Il nous a rassemblés dans son corps, le corps de Christ, qui est l'Église. D'après Colossiens chapitre 3, verset 16, nous exprimons donc notre reconnaissance envers lui par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels, dans la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Donc il y a adoration de la louange, bien entendu, lors de notre rassemblement par des chants. C'est une expression de notre louange à Dieu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais le but de l'assemblée, ce n'est pas cette louange en tant que telle, c'est de faciliter la louange de toute une vie consacrée à Dieu. Et cela se fait par l'édification de la parole de Dieu. Colossiens 3, 16, que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Et ensuite, il dit, instruisez-vous, avertissez-vous en toute sagesse, par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. La musique, lorsqu'elle est bien faite, est un moyen important, disons-le, créatif, par lequel les vérités de notre espérance chrétienne prennent racine en nous. Souvent, je pense que c'est les chants qui permettent de nous rappeler des vérités bibliques lorsqu'on traverse par des moments difficiles. Je pense aux personnes âgées sur le point, sur le lit de mort même. Et à ce moment-là, souvent, ils se souviennent de quoi? Des vieux cantiques qu'ils avaient chantés autrefois. Merci Seigneur, si c'est un moyen que la parole de Dieu entre en nous. Mais par cela, je ne dis pas qu'il suffit donc de choisir simplement un chant avec des paroles bibliques pour que cela marche. J'étais sur le site de Florent Varac cette semaine où il disait ceci. Je pense que c'est à propos aussi pour nous. Nous essayons d'améliorer la musique. C'est une bonne chose. Pourquoi? Une musique de qualité, il dit, est-ce que nous visons? Car cela devient support de la louange et non point... Non, le point d'attention de l'auditoire. Ainsi, la musique n'est plus un moment de souffrance, elle n'est plus un obstacle, mais une aide pour se concentrer sur le fond et les paroles du chant. Donc, il ne faut pas que nous fassions fi par rapport à la qualité de la musique. Parce que sinon, on est tous en train de dire, bon, ça va, on ne sait pas ce chant-là, on ne connaît pas cette mélodie, on ne sait pas chanter. Et au lieu de se focaliser sur des paroles, nous sommes en train de dire, ben c'est nul. Ben, ça ne va pas non plus. Hein. Donc, nous essayons de faire de notre mieux pour que ces vérités bibliques que nous chantions entrent en nous. La musique s'installe dans un contexte d'un rassemblement, cela dit, avec un but de nous aider chacun à grandir dans la foi autour de la parole. Et donc, je termine, chers amis, juste avec cette référence de Hébreux chapitre 10 qui nous exhorte à nous rassembler. Pourquoi faire? Verset 23 de Hébreux 10. Continuons à reconnaître publiquement notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Veillons les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns en ont coutume, mais encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Ça, c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons. Que le Seigneur nous aide donc à être encouragés encore aujourd'hui, pour que nous veillions les uns sur les autres, pour que nous reconnaissions publiquement notre espérance, pour que nous soyons persuadés que Dieu est digne de notre confiance. Et c'est ça ce que nous allons faire, je pense, maintenant, en enchaînant avec le repas du Seigneur. Donc moi, je vais en fait reprendre juste deux versets avant pour introduire le repas du Seigneur, parce que c'est dans ce contexte-là, Hébreux chapitre 10, que nous entendons parler du sacrifice de l'œuvre de Jésus. Que dit-il à partir du verset 19, Hébreux 10, « Ainsi donc, frères, nous avons assurance d'un libre accès au sanctuaire. » Alors, d'où vient cette assurance? Par le sang de Jésus. Le accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile. Ça évoque le temple. Mais où se trouve l'accès à Dieu aujourd'hui? Le voile déchiré. C'est grâce à Jésus, c'est-à-dire de sa chair. Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Nous célébrons cela lorsque nous mangeons et nous buvons chaque semaine. Dans verset 22, approchons-nous d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est sur base donc de ces promesses, ces paroles que je vous invite, chers amis, à participer à ce repas avec moi, conscient que c'est le Seigneur, Jésus lui-même, qui permet que nous soyons dans sa présence. Et j'invite ceux qui vont distribuer de s'avancer, ils vont prier pour nous, et je vous invite, vous, à vous lever.